VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Actualité aux États-Unis tout d'abord. Fusillade de Las Vegas. Le tout dernier bilan de la tragédie, 59 morts et 527 blessés. Un sinistre record. Outre se toucher par balle ou par éclat de balle, beaucoup de victimes se sont blessées dans leur fuite. Le tueur, un Américain blanc de 64 ans, Stephen Craig Paddock, riche comptable à la retraite, habitué des casinos de Las Vegas. Il s'est suicidé avant que les policiers ne l'atteignent. Le FBI, la police fédérale, a rejeté la piste d'un attentat djihadiste face à une revendication de l'organisation État islamique. Le président Donald Trump, lors d'une déclaration à la Maison-Blanche lundi matin, n'a évoqué ni la question des armes à feu, ni celle du terrorisme. Le chef de l'exécutif américain se rendra à Las Vegas demain, mercredi. La fusillade de Las Vegas, la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis, soulève pour la énième fois la question de l'encadrement des ventes d'armes à feu dans le pays. Mais ni le président Trump, ni le Congrès américain ne semblent prêts à faire bouger les lignes. Jean-Roger Bion.
Les adversaires démocrates du président américain ont déjà donné de la voix pour réclamer un débat de fond sur la question des armes aux États-Unis. Donald Trump a certes dénoncé un acte qui représente le mal absolu et a appelé l'Amérique à l'unité et la prière, mais n'a pas dit un mot sur la question des armes à feu. Peu après, sa porte-parole Sarah Huckabee Sanders a jugé ce débat prématuré. Au Congrès, Nancy Pelosi, la chef des démocrates de la Chambre des représentants, a elle écrit au leader républicain Paul Ryan pour réclamer la création d'une commission visant à proposer une loi de bon sens. Les réactions affluent du monde entier. La reine Elisabeth II a envoyé ses condoléances. Et en France, la tour Eiffel a été éteinte lundi soir en hommage aux victimes des attaques de Las Vegas et Marseille où il y a eu 2 morts dimanche. Une minute de silence a été observée à la Maison-Blanche où les drapeaux ont été mis en berne comme au Congrès. Le président américain Donald Trump se rendra mercredi à Las Vegas.
Afrique maintenant. En Côte d'Ivoire, des anciens rebelles démobilisés ont réclamé lundi des primes à Mans dans l'ouest du pays, pendant que d'autres ont tenté d'occuper la préfecture de Bouaké dans la région du centre. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Selon le porte-parole des démobilisés, Julien Kessé, au moins 200 ex-rebelles se sont rendus à la préfecture de Mans pour réclamer une prime de guerre de 18 millions de francs CFA par personne. Personne ne nous considère, nous sommes négligés. Ceux qui ont combattu comme nous et qui ont été recrutés dans l'armée ont eu 12 millions récemment et nous, rien. Nous ne sommes pas d'accord, a expliqué M. Kessé. Un autre ex-rebelle, Shérif Lassina, a ajouté qu'ils attendent des propositions du gouvernement au cas où Abidjan ne peut pas verser entièrement les 18 millions réclamés. À Bouaké, une vingtaine de démobilisés ont essayé d'occuper la préfecture. Le préfet étant absent, ils ont reporté leur projet, a affirmé un des manifestants, Aboudou Diakité. Fin mai, 6 000 démobilisés réclamaient 18 millions de francs CFA par personne. La répression de leur mouvement s'est soldée par la mort de 4 anciens rebelles. Ces démobilisés demandent le même traitement que leurs anciens camarades qui ont intégré l'armée et qui ont obtenu gain de cause après des mutineries en janvier et en mai.
Afrique de l'Ouest toujours, le G5 Sahel verra-t-il le jour? La Mauritanie a exhorté lundi les bailleurs à appuyer financièrement la création de cette force militaire anti-djihadiste regroupant les soldats du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est lors d'une réunion à Nouakchott que la ministre déléguée chargée du Maghreb arabe, Khadijatou Mbarek Fall, a exhorté les donateurs à apporter leur appui. Une conférence dédiée aux contributions à cette force est prévue le 16 décembre 2017 à Bruxelles. La communauté internationale a endossé la mission de la force armée du G5 Sahel qui est de combattre le terrorisme et le crime transfrontalier dans la région, a ajouté la ministre. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré le 9 septembre à Sévaré au Mali le poste de commandement central de cette force qui comptera à terme 5000 hommes. Les premières unités doivent être déployées en octobre et les bataillons devraient être opérationnels en mars 2018. Les dirigeants des pays du G5 Sahel ont débloqué des fonds pour commencer le déploiement, mais le financement est loin d'être bouclé. Seuls 108 millions d'euros ont été promis sur les 423 jugés nécessaires par les pays membres du G5 Sahel.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Sénégal et au Mali, des écoles privées gérées par des groupes proches du prédicateur turc Fethullah Gulen sont fermées depuis hier. Une décision des autorités qui inquiète les parents d'élèves dans les deux pays, Abdourahmane Dia.
À Dakar, des policiers ont interdit l'accès à l'une des 9 écoles gérées par l'association turque Beskend Ejetim. La rentrée est effective depuis le 11 septembre. Le ministère sénégalais de l'Intérieur avait annoncé samedi que les écoles Yavuz Selim, comptant quelque 3000 élèves, n'étaient plus fonctionnelles. Le Sénégal avait déjà annoncé en 2016 le retrait de l'agrément à l'association qui assurait la gestion du groupe scolaire, engageant un bras de fer avec l'association des parents d'élèves et le personnel. À Bamako, les forces de l'ordre ont interdit l'accès aux écoles. Un huissier a fait changer les serrures des portes. Le Mali a aussi abrogé les arrêtés de création des 4 établissements, dont 3 dans la capitale et un autre à Ségou. Le président Recep Tayyip Erdogan a lancé une offensive contre toutes les écoles et universités proches du prédicateur Fethullah Gulen, accusé d'avoir fomenté le putsch manqué du 15 juillet 2016.
Au Tchad, les élèves ont repris le chemin de l'école après 3 mois de vacances, mais cette reprise des cours ne rassure pas le syndicat des enseignants du Tchad qui exige du gouvernement le paiement des arriérés de primes et de subsides dans un bref délai. Les précisions de notre correspondant N'Djamena André Kodmajingar.
À peine démarré, une menace de grève plane déjà dans ce secteur. Le syndicat des enseignants du Tchad exige du gouvernement le paiement des primes des examens et concours de l'année 2015-2016, les primes des encadrements des enseignants des écoles normales d'instituteurs et les subsides des maîtres communautaires avant la fin du mois d'octobre 2017. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Ahmad Kazali Mahamat Asil invite les partenaires à l'éducation nationale à un sens de responsabilité pour ne pas retomber dans la même situation que l'année dernière.
Le gouvernement fera tout son mieux pour que cette année s'achève aussi dans les meilleures conditions. Mais nous souhaitons aussi, en commun accord avec nos partenaires sociaux, maintenir le dialogue, la communication pour l'intérêt de nos enfants et pour la réussite des enfants tchadiens.
Une invite qui ne rassure pas le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad pour la commune de N'Djamena. Ngartoïde Blaise menace toujours d'appeler à la cessation des activités pédagogiques si leurs revendications ne sont pas satisfaites dans un délai requis.
Nous ne pouvons pas vous dire quand il y aura des perturbations. Les primes, on peut encore peut-être s'attarder là-dessus, mais vous prenez les maîtres communautaires, les subsides. Aujourd'hui, jour pour jour, 2 ans, ils ne sont pas payés. Donc, si rien n'est fait dans les semaines qui suivent, il y aura effectivement des perturbations.
André Kodmadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
En RDC, d'intenses combats opposent depuis vendredi dernier les FARDC, l'armée nationale congolaise, à des milices dans une localité de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. L'armée annonce avoir tué au moins 16 miliciens. Eric Manirakiza.
D'après le lieutenant Jude Chikudi, un des porte-parole de l'armée, les corps de 5 miliciens Maïmaï ont été récupérés hier lundi. La veille, les FARDC ont tué 7 autres, dit-il, et les affrontements se sont intensifiés depuis vendredi, quand 4 miliciens ont trouvé la mort autour de Kipese, une localité dans le territoire de Rubero, au nord de Goma. L'armée assure que la situation est maintenant sous contrôle. Plusieurs groupes armés congolais et étrangers opèrent dans l'est de la RDC depuis plus de 20 ans, dont les Maïmaï, des groupes d'autodéfense. Depuis le début de l'année, ces miliciens attaquent régulièrement les positions de l'armée dans le nord Kivu et dans la province voisine du sud Kivu. La semaine dernière, une attaque des Maïmaï Yakutumba, un autre groupe dirigé par un ancien officier, a été repoussée à Uvira, dans le sud Kivu.
RDC toujours, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre de nouvelles coupes dans la MONUSCO, la mission des casques bleus déployée dans le pays, où des élections restent incertaines. C'est ce qui ressort d'un rapport qu'il vient de remettre au Conseil de sécurité. De nouvelles réductions dans la MONUSCO, la plus importante opération de paix de l'ONU, avec des effectifs de quelque 18 000 hommes, pourrait ne plus lui permettre d'empêcher un effondrement du pays, souligne Antonio Guterres dans cette étude stratégique de 27 pages sur l'engagement onusien. Sous la pression des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU avait en mars décidé de réduire les effectifs de la MONUSCO de 2 000 hommes. Les 15 membres du Conseil doivent tenir la semaine prochaine une nouvelle réunion sur la RDC. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.